Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements.
Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple, parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes, de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM.
Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Micro ouvert sur Marmite FM 88.4. Nous poursuivons notre série d'émissions sur les enjeux du plateau de Saclay, huitième et dernière émission, sauf une émission venait peut-être, ou un sujet, puisqu'on a reçu des mails, des petits messages avec des propositions de sujets, donc on va voir si on aura l'occasion de traiter d'autres sujets. Mais normalement, c'est la dernière émission. Vous pourrez retrouver les 7 premières émissions en libre écoute et en téléchargement sur notre site internet à l'adresse suivante marmitefm.fr. Notre sujet du jour, la vie du sol agricole en péril, la gestion du drainage sur le plateau de Saclay. Nous nous intéressons aux conséquences des grands projets d'urbanisation sur les terres du plateau de Saclay, sur le drainage de cette zone, et les conséquences telles que les inondations, par exemple, qui touchent les villes du plateau ou qui détruisent des terres agricoles. Cyril Gérardin est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Pédologue, donc chercheur en sciences du sol à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous êtes également vice-président de l'AMAP, les Jardins de Cérès, qui est à Villiers-le-Bacle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pascal Maugis, bonjour.
Et bonjour.
Hydrologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay. Vous intéressez notamment à l'usage de l'eau en lien avec le changement climatique. Alors on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Notre sujet du jour, donc, il peut paraître peut-être parfois technique par endroit. On va essayer de le rendre aussi accessible que possible. Alors avant de parler des conséquences de l'urbanisation sur ces terres et sur la vie du sol et sur l'hydrologie qu'on définira tout à l'heure, nous allons vous présenter ces sols en question, sols présentés par des invités dans les émissions précédentes comme étant les plus fertiles d'Europe. Ça, on va voir ce que nous disent nos invités sur cette question. Alors comment Cyril Gérardin, se sont constitués et se sont formés ces terres du plateau de Saclay?
Bon, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de ces sols. Effectivement, je travaille en sciences du sol dans une équipe où pas mal de collègues comme moi, au quotidien, travaillent sur les sols. Et donc, effectivement, sur le plateau de Saclay où j'habite, j'ai une vigilance particulière sur ce qui se passait pour ces sols fertiles. Alors, ce sont des sols qu'on dit limoneux. Il faut savoir pourquoi limoneux, ça vient des limons. En fait, les limons sont des particules qui sont intermédiaires entre les argiles et les sables. C'est défini comme ça dans la granulométrie. Et donc, ils ont des propriétés intermédiaires entre celles des argiles et celles des sables. Alors, on peut très vite comprendre que quand on fait pousser des légumes, par exemple, dans du sable, eh bien, quand on arrose, l'eau, elle passe très vite dans le sable et elle n'est pas vraiment beaucoup conservée pour alimenter les légumes. Et puis, au contraire, si on essaye de faire pousser des légumes dans de l'argile, c'est assez complexe parce que quand il y a de l'eau, les particules argileuses fabriquent facilement une espèce de boue, voilà. Donc ces limons, c'est déjà en soi un matériau tout à fait particulier, puisque dans une classe granulométrique entre 2 et 63 microns, tout à fait particulière. Alors en plus, ces limons du plateau de Saclay, ils ont une histoire tout à fait remarquable, puisque ces particules qui sont arrivées sur le plateau de Saclay sur plusieurs mètres d'épaisseur résultent en fait d'épisodes glaciaires d'il y a plusieurs millions d'années, des particules fabriquées en fait par les glaciers, puis transportées par le vent. Donc on appelle ça des limons éoliens. Donc ces petites particules ont été transportées dans l'air sur des distances assez conséquentes, et c'est du fait de ce transport qu'elles sont venues se déposer sur plusieurs mètres en région parisienne et dans d'autres régions, donc des limons éoliens. Et donc, on voit bien que c'est un processus géologique tout à fait lointain, complexe et un peu unique qui a fait que nous avons hérité dans le bassin de Parisien et également sur la Brie, la Beauce, de sols limoneux tout à fait vraiment remarquables et particuliers. On pourrait vraiment se dire que c'est un patrimoine de l'humanité pour nous, quoi. Et c'est pour ça que je suis en travaillant sur ces sols, sur les sols, je suis très sensible au fait que dans des travaux d'aménagement, on n'attache pas plus d'attention à essayer de les protéger. Voilà. Alors, ils sont effectivement très fertiles. Ça, la première mesure de ça, c'est le rendement agricole, c'est-à-dire qu'en fait, un agriculteur qui cultive des sols comme ça peut sortir jusqu'à 100 quintaux de blé d'un hectare. Hein, donc 100 quintaux de blé, ça fait 10 tonnes hectare, donc ça lui procure un revenu très conséquent. Il y avait un moment, on parlait du club des 100 quintaux, c'est-à-dire les quelques agriculteurs qui arrivaient à monter jusqu'à une production, un rendement de 100 quintaux. C'était un peu comme un Graal, hein, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Bon, aujourd'hui, avec les techniques modernes, ça se fait, mais il faut savoir que c'est quand même tout à fait remarquable. Et en plus, sur le plateau de Saclay, et là, du coup, ça fera la transition avec le volet sur l'eau que Pascal peut traiter, ouais. On a, sur le plateau de Saclay, des sols limoneux qui, non seulement par eux-mêmes, peuvent garder l'eau, mais en plus sont sur un niveau d'argile qui permet en fait d'avoir ce qu'on appelle une réserve hydrique assez conséquente toute l'année et en particulier sur la période estivale, qui permet aux cultures, même des cultures tropicales comme le maïs, d'avoir une réserve en eau suffisante, y compris en période de canicule comme on a pu connaître certains étés, des étés très secs. On peut sans irrigation sur le plateau de Saclay cultiver des plantes même type tropical, type maïs, sans irrigation et avoir des rendements qui ne faiblissent pas, même en période ultra caniculaire. Quoi. Voilà. Donc des sols tout à fait remarquables et qu'il est dommageable pour tout le monde de voir disparaître aujourd'hui sous les aménagements, sans discernement finalement de la qualité des sols qui est impactée. Quoi. Voilà.
Bah justement, Pascal Mogis, Cyril Gérardin m'a facilité la transition de l'importance de l'eau justement dans la formation de ces terres. Et puis, il le disait à l'instant, Cyril Gérardin, c'est une terre qui garde très bien l'eau. En gros, pour nos auditeurs, nos auditrices, qu'est-ce que ça fait que la terre garde bien l'eau? Est-ce que
et oui.
Vous allez me dire que c'est très bien, c'est une qualité essentielle, mais voilà, expliquez-nous.
Ça dépend. Mais en tout cas, effectivement, en termes hydrologiques, le sol est une composante essentielle puisque c'est lui qui va accepter ou refuser l'eau de pluie qui tombe. Donc, quand il la refuse, l'eau ruisselle et puis s'écoule vers le bas. Et puis, quand il l'accepte, ça pénètre, c'est accessible aux plantes et ça pénètre plus profondément. Pour ensuite ressortir parfois très loin, parfois un peu plus bas sur les coteaux, vers les rivières, comme c'est le cas d'ailleurs sur le plateau de Saclay. Effectivement, il y a cette composante d'une part d'un sol qui a une texture relativement fine, mais pas trop. Donc, elle peut retenir l'eau, une bonne porosité jusqu'à 40%, la retenir, résister à l'évaporation, parce que c'est suffisamment fin, il y a une tension capillaire qui est suffisante pour résister, pour ne pas s'évaporer trop vite. Ouais. C'est-à-dire pour ça qu'on met du marc de café sur les plantes pour empêcher que le sol s'évapore, parce qu'il est très très fin, donc du coup, effectivement, l'eau reste. Et en dessous, cet horizon d'argile à meulière, beaucoup plus ancien, hein, qui s'est formé dans les 10 à 40 derniers millions d'années, qui empêche l'eau de s'enfuir vers le bas. Et c'est cette composante qui est assez exceptionnelle. Donc on a ce grand bassin parisien en termes géologiques, qui couvre une énorme superficie en France. Avec le bassin aquitain, on a en France la plus grande proportion de terres agricoles de plaine, extrêmement fertiles, sous climat tempéré. Donc en fait, effectivement, je soutiens ce qui a été dit en termes de patrimoine mondial. En gros, ce patrimoine de terres est une bénédiction pour la France et même pour les Gaules. Hein, dans le temps, c'est ça qui avait fait le succès des Gaulois et attisé la convoitise de Jules César. Mmh. Et au niveau de l'Europe, en fait, qui est beaucoup plus montagneux et qui n'a pas facilement cette combinaison, finalement, on a parmi les meilleures terres d'Europe et donc une grosse responsabilité agricole vis-à-vis du changement climatique, puisque peut-être que le bassin parisien et sera un des derniers endroits où pourra pousser des céréales massivement.
Je peux juste donner un élément là, sur ce que vient de dire Pascal. Il faut savoir que sur l'ensemble du globe, sur l'ensemble des terres émergées, il n'y a que 22% des terres émergées qui sont cultivables. C'est-à-dire que le reste est trop caillouteux, trop pentu, trop froid, trop sec, trop humide. Donc en fait, il faut quand même se rendre compte que quand on regarde la surface terrestre, il n'y en a que 22% qui est cultivable et c'est ce qui permet de nous nourrir. Or, 95% de ce qu'on mange est en lien direct avec la terre, avec le sol. Hein. Voilà. Je laisse la parole à Pascal.
Et en France, on est à quel pourcentage de surface agricole utile ?
Je pourrais pas te le dire, Pascal.
Mais enfin, c'est, je crois que c'est, enfin voilà, le propos, c'était de dire que c'était extrêmement élevé. Je sais pas si on est autour de 40% ou 50%, mais c'est tout à fait exceptionnel.
Alors, on a été bien doté par la nature.
Tout à fait. Voilà. Ce qui explique notre fertilité, bien sûr, qui a été mise en valeur par nos ancêtres. Bon, donc c'est selon ces deux qualités. Et très propice pour ce qui est agricole. Mais il faut aussi que l'eau ne soit pas trop humide. Ce que n'a pas dit Cyril, c'est que quand le sol a trop d'eau, les plantes, notamment les céréales qui ont besoin d'avoir des racines oxygénées, ne peuvent pas produire et fructifier. Et donc, la nature du plateau de Saclay, la composante naturelle, l'identité naturelle du plateau de Saclay, c'est le marécage. Et d'ailleurs, on le voit, dès qu'il pleut, quand il y a des drains qui sont cassés quelque part et qu'il pleut, ça y est, on a une mare, une mouillère, comme on dit souvent, voire carrément un plan d'eau, si on est un petit peu en bas de topographie. Et là c'est du marais, ce n'est pas exploitable de façon agricole. Alors, c'est la raison pour laquelle cet excès d'eau, il faut s'en débarrasser si on veut pouvoir cultiver. C'est ce qu'ont fait depuis l'Antiquité, nos ancêtres d'hiver jusqu'à présent, en drainant le sol.
C'est ce qu'on appelle le drainage, d'accord ?
Donc ce sol non drainé ne permet pas l'agriculture efficace. Donc depuis les Gaulois, depuis pendant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, donc les sols ont été drainés. Alors de façon un petit peu traditionnelle, forcément, avec des fossés ouverts ou alors des fossés... comblé avec des pierres, avec des fagots, de la paille, donc il faut entretenir, c'est un travail énorme. Les corvées, en fait, consistaient beaucoup à entretenir les fossés. Hein. Et ensuite, de façon un peu plus élaborée, en allant sur les côtés avec des tuyaux en poterie, donc de différents types. Hein. Aujourd'hui, c'est des tuyaux en plastique percés, c'est la même technique. Et ces drains sont environ à 1 mètre de profondeur, ça dépend des terres. Ce bateau de Saclay, c'est optimisé. Hein. Typiquement, aujourd'hui, il y a un drain tous les 12 mètres. Ils font 6 cm de diamètre et puis ils sont percés et ils couvrent de façon très très régulière la surface. Ils rencontrent des collecteurs et ces collecteurs amènent l'eau vers les rigoles qui ensuite évacuent l'eau doucement.
Alors qui évacue l'eau où ?
Alors, sur le plateau de Saclay, toutes les eaux grosso modo sont évacuées vers la Bièvre in fine en transitant par d'abord des collecteurs, ensuite des rigoles. Les rigoles se rendent vers, pour la partie est, vers les étangs de Saclay, étang vieux pour la partie sud-est, étang neuf pour la partie est et nord-est, et aussi des eaux qui viennent un peu plus haut. Il y a une partie des eaux qui vont ensuite plutôt vers l'ouest, vers Saint-Quentin-en-Yvelines, une partie assez minoritaire. Et ensuite, toutes ces eaux, ensuite, sont dirigées soit via le rue de Revaux-Allant dans la Bièvre, soit via le rue de Saint-Marc dans la Bièvre aussi, plus en amont, où il y a des systèmes pour récupérer tout ça. Ça, c'est effectivement 80-90% de la surface, quand ça se passe bien. Ensuite, il y a une partie qui, de toute façon, n'est pas connectée aux rigoles, notamment sur la bordure sud. Il y a des points de fuite qui représentent un volume quand même assez conséquent et qui est mobilisé, en fait, lors des gros épaisements pluvieux pour créer notamment des inondations agives via la mer Antaise ou alors... Enfin, disons qu'il y a différents dysfonctionnements du système. Et puis aussi, il y a des endroits où les rigoles ne sont pas connectées, se jettent dans la 118, sur la départementale. Et à ce moment-là, ça ruisselle sur les côtés de la route pour aller à nouveau vers la Bièvre, par exemple, ou vers l'Yvette.
Alors, on parlait d'histoire, justement, Pascal Maugis, vous le disiez, dès l'Antiquité, hein, il y a eu toute une série de drains qui ont été mis en place, voilà, avec l'ingéniosité des ancêtres. Qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle, notamment avec Versailles, avec l'arrivée du Roi Soleil, et puis, justement, il fallait remplir les bassins du château de Versailles avec de l'eau, et il y a un lien direct avec le plateau de Saclay. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur le plateau de Saclay ?
Oui, absolument. Alors ça, c'est un grand virage. D'ailleurs, c'était aussi l'essor de l'ingénierie de l'époque. Donc, Louis XIV voulait des jets d'eau de plus en plus haut, à la mesure de sa gloire et de sa puissance. Et pour ça, il faut beaucoup d'eau. Les jardins, ensuite, il faut les irriguer. Et il avait une énorme superficie avec beaucoup d'ambition et aussi beaucoup de besoins également. Et donc, ils ont commencé par aller chercher cette eau de façon gravitaire au nord, puis au sud-ouest, ça ne suffisait toujours pas. Et puis, ils ont dit, on va aller chercher l'eau également au sud-est. Donc, ça a été la région du plateau de Saclay. C'est l'ingénieur Gobert qui s'en est chargé. Alors, il y a eu différents projets. Déjà, il y a eu la machine de Marly, hein, qui est cette espèce d'énorme édifice sur la Seine qui remontait l'eau via l'aqueduc de Valenciennes pour l'amener à Versailles, mais ça n'a pas suffi. En plus, l'entretien était extrêmement lourd et les volumes limités, et il y avait des pannes tout le temps. Alors, ils étaient quand même malins à l'époque parce que, évidemment, ils ont fait des fontaines et des jets d'eau, d'accord. Mais surtout, ça a permis de valoriser l'agriculture puisque ils ont fait coup double en installant des rigoles donc, qui toutes convergeaient vers Versailles. Alors, le plateau de Saclay, ensuite, après avoir recueilli les eaux, les amène via l'aqueduc de Buc, qui ensuite va vers Versailles. Ouais. Et tout ce système de rigoles, en fait, était aussi pour permettre le drainage, d'évacuer les eaux de drainage agricole des terres, à ce moment-là, qui étaient aussi cultivées, mais qui avaient un rendement faible. Hein, le rendement agricole était très faible au Moyen-Âge, hein, et il y avait bien quelques fossés et un peu d'agriculture autour. Mais là, les rigoles ont permis, finalement, de développer de façon importante cette agriculture. C'est resté quand même au voisinage des rigoles. Ça permet de connecter des collecteurs et de se débarrasser de cette eau. Donc les rigoles, ça évacue l'eau. C'est une petite pente qui fait 2 pour 1000 environ. Hein. C'est-à-dire que 2 mètres sur 1 km.
D'accord.
Et donc, du coup, ça évacue les eaux au bout de... Il faut 2-3 jours, en fait, pour évacuer les eaux. C'est très lent. C'est pas un système de gestion des inondations.
Il faut vraiment pointer les outils d'ingénierie là, qu'évoque Pascal, parce que ça veut dire qu'au XVIIe siècle, avec Gobert, hein, on a des outils quand même pour mesurer des niveaux, etc. Et finalement, réussir à exploiter des pentes très faible, hein, puisqu'on est sur un plateau, pour faire courir l'eau sur plusieurs kilomètres. Hein. Et donc, les rigoles, c'est vraiment un système hydrographique du plateau de Saclay tout à fait remarquable pour ça. Et il y a eu vraiment beaucoup d'ingénierie investie. Et par rapport à la collecte générale que donnait Pascal tout à l'heure sur les étangs de Saclay, hein, étang vieux, étang neuf, en fait, c'est un aqueduc souterrain qui part de ces étangs pour alimenter l'aqueduc de Buc. Donc, il y a eu aussi pas mal d'ouvrages construits et qui existe encore pour partie, pour permettre à toute cette eau de quitter aussi le plateau de Saclay et d'aller vers Versailles. Voilà.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages patrimoniaux tout exceptionnels. L'aqueduc des Mineurs, lui qui part du bassin des Biches près du CEA et qui remonte sur l'étang. Évidemment, l'aqueduc, il y a aussi le pavillon du roi. Enfin, ça donnait lieu à pas mal d'ouvrages à l'époque. Ils faisaient aussi des choses élégantes à chaque fois. Et alors, donc, la machine, le procédé de Gobert est très malin puisque lui, il a fait un niveau à eau. Hein, il remplit des cylindres transparents connectés par des cylindres horizontaux, et ensuite, en fixant un crin de cheval de chaque côté bien horizontal sur les niveaux, il peut choisir, en mettant 2 mm plus haut là et là, de créer une pente de 2 mm pour 1 mètre, donc de 2 pour 1000. Et ensuite, il se tient à distance, il vise avec une lunette, et ça lui permet de cibler très très précisément l'endroit où il veut arriver. Alors, du coup, le plateau de Saclay, il est orienté. Il a un pendage naturel vers l'est-sud-est. Donc, il est en descente vers l'est. Mais Versailles, c'est vers l'ouest. Ce qui fait qu'il a fait des calculs d'abord pour savoir si c'était faisable, parce qu'il fallait que le niveau haut soit plus haut que à l'est, donc il est niveau bas,
oui,
en fait.
Pour que ça puisse
soit plus haut que Versailles. Ouais. Il dit, ah, c'est possible, on peut y arriver. Ça, en termes de géographie, c'est déjà exceptionnel d'être capable de faire ça, hein, parce que la triangulation doit être extrêmement précise, hein, avec des moyens assez rudimentaires. Hein. Et en tout cas, il a dit que c'était possible, et il a eu raison, et c'est pour ça aussi qu'on a des rigoles qui sont assez superficielles dans l'Est, près de Corbeville et du Moulon, et qui sont de plus en plus profondes, parfois 2 à 3 mètres de profondeur quand on va vers le Nord-Ouest, hein, on s'approche donc de Versailles.
Merci pour ces précisions qui permettent également d'en savoir plus sur l'ingéniosité des ancêtres. Alors le niveau... vraiment pour les auditeurs, les auditrices qui n'auraient jamais fait de travaux, qui ne sont pas bricoleurs. Voilà, c'est cette petite barre que vous avez avec une petite boule, une petite bille d'eau.
Une bulle.
Ouais. Une petite bulle qui permet de savoir si votre meuble est bien droit. Voilà, donc...
Horizontal.
Horizontal, exactement. Ouais, voilà. Voilà, ça c'est pour préciser pour le niveau. Est-ce que vous pourriez juste, en quelques mots, je sais que c'est un exercice compliqué, Cyril Gérardin, nous parler un petit peu de la vie des sols. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les sols? Pourquoi je vous pose cette question? C'est pour après, justement, poser la question de la conséquence de l'urbanisation sur ces sols, sur la vie des sols, qui n'est peut-être pas connue du grand public. Un sol, c'est vivant.
Voilà. Ben oui, on considère que la moitié de la biodiversité terrestre est dans les sols. Hein. Donc, c'est un milieu très, très riche, qui d'ailleurs, ce ne sont pas forcément, je dirais, des animaux qu'on voit. beaucoup. Il y a également des micro-organismes, hein, donc forcément, ben, qui dit micro-organisme, il faut des appareils du type microscope pour aller dénicher ces communautés. Donc, dans les laboratoires qui étudient les sols, hein, moi j'ai des collègues qui passent effectivement beaucoup de temps à étudier toute cette diversité qui est particulièrement intéressante parce que, en fait, les sols, toute cette communauté rend service au sol, hein, en dégradant notamment les matières organiques, et au fur et à mesure de cette dégradation, en fait, eh bien, ça libère des nutriments. Donc, nutriments, vous voyez, c'est la même racine que nourriture, c'est-à-dire c'est des éléments chimiques qui permettent de nourrir les plantes. Donc, en fait, la vie des sols permet progressivement de libérer des éléments qui nourrissent les plantes. Et c'est ça, vraiment, je dirais, cet aspect de la vie biologique des sols qui est extrêmement important aujourd'hui pour l'agriculture. Et si, depuis l'après-guerre, on avait vraiment misé beaucoup sur la chimie, hein, donc on a élaboré et mis au point pas mal de techniques de chimie pour l'agriculture, hein, avec notamment en apportant ce qu'on appelle des engrais chimiques minéraux qui permettent aussi de nourrir directement les plantes. Donc on a basé beaucoup des pratiques agricoles sur ces produits chimiques, hein, vous connaissez, on parle d'herbicides, de pesticides, de fongicides, etc. Pour le traitement des cultures, et forcément ça arrive aussi dans les sols pour contrôler je dirais justement cette biologie parfois qui pose problème par rapport à la santé des plantes, hein, eh bien aujourd'hui, il y a vraiment une trajectoire qui nous fait aller plus vers la biologie, quitter un petit peu les produits chimiques, aller plus vers les vertus des cycles biologiques qui sont également capables, dans leur process, finalement, de nourrir les plantes. Alors, je vais vous donner quelques noms des animaux du sol que vous connaissez, que vous pourrez aller regarder, hein, mais j'ai des collègues qui travaillent sur les collemboles, les anchytréides, bon, les vers de terre sont connus, oui. Mais il y a des plus petits vers de terre, enfin, qui ne sont pas exactement de cette famille-là, mais il y a des nématodes, voilà, il y a énormément de petites bêtes dans les sols qui dégradent dans leur travail de tous les jours, qui se nourrissent des matières organiques qui les dégradent. Et puis après, il y a des communautés et bactériennes et de champignons qui finissent le travail et qui, à partir de là, fabriquent ces fameux nutriments très, très utiles pour les cultures. Voilà, donc c'est ça vraiment aujourd'hui dans la trajectoire agroécologique dans laquelle finalement guidées les différentes équipes de recherche qui travaillent sur les sols ou sur le domaine agronomique. Et ben dans cette trajectoire, on essaye vraiment de regarder toute cette diversité de l'activité biologique des sols et d'essayer de voir comment on peut aider cette activité biologique pour qu'elle soit vraiment utile pour l'agriculture, quoi. Voilà.
On pourra en parler des heures, hein, c'est passionnant. Pascal Maugis.
Oui, Cyril a mentionné l'activité chimique et bactériologique, mais il y a aussi l'activité mécanique. Et les vers de terre,
oui.
C'est le fait de retourner le sol et de l'aérer. Les vers de terre creusent sans arrêt des galeries qui reconnectent hydrologiquement le haut et le bas et qui permettent à l'eau de s'infiltrer plus en profondeur. Donc quand on est au Sahel, c'est les termites qui font le boulot, mais c'est indispensable. Et en plus de ce qu'ils font, c'est qu'ils font remonter un petit peu de matériaux en surface, etc. Et ils permettent de remuer, de conserver la texture du sol. Et un sol qui n'est pas aéré, c'est un sol où il n'y a pas de pénétration de l'eau et de la matière. Et donc, en fait, derrière, il ne se passe plus rien. Non,
Pascal a tout à fait raison. Merci, Pascal. Donc, on parle des ingénieurs du sol, hein, notamment en ce qui concerne les vers de terre. Et c'est vrai que c'est très, très important et c'est tout à fait lié à l'eau aussi. Parce que tout ce travail du sol permet effectivement une porosité et une structure qui ensuite, dont découlent également des propriétés hydriques très importantes. Voilà. Non, c'est tout à fait essentiel, effectivement.
Là,
donc,
on
ne peut qu'encourager, de mon point de vue, des pratiques, justement, biologiques pour que cette activité biologique des sols soit vraiment présente et efficace dans les sols, quoi. Voilà.
Pascal Maugis.
Oui, il me semble que sur les surfaces continentales, je crois que les vers de terre représentent la moitié de la masse vivante.
Oui, je sais que c'est énorme. Je ne peux pas confirmer ça directement.
Enfin, c'est l'ordre de grandeur,
en tout
cas.
Tout à fait.
Et ça veut dire que la moitié de la vie sur Terre est en fait sous Terre.
Ouais.
Donc ça c'est passionnant. Alors ça pose également la question, hein, par rapport à ce que disait à l'instant Cyril Girardin sur cette vie des sols qui est déjà impactée par l'usage de pesticides ou d'autres choses dans l'usage qu'on en fait dans l'agriculture. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais ça pourrait être un thème à part entière. Et puis peut-être également sur ce que disait tout à l'heure Pascal Maugis, l'évacuation de ces eaux qui se retrouvent dans la Bièvre, vous le disiez, par rapport au drainage. Est-ce qu'elle apporte aussi avec elle tous les résidus et tout ce qu'on a pu mettre dans la terre? Ça, c'est également une autre question, même si ce n'est pas forcément le thème de l'émission.
En deux mots, c'est un des enjeux majeurs, d'une part, de la fertilisation économiquement rentable, parce que quand ça s'en va, il faut en remettre. Ouais. Et le problème des apports en azote minéral, d'nitrate, quoi, c'est qu'ils sont lessivés très très rapidement. Et donc, il y a des gros enjeux. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, en fait, sur la qualité des eaux sur le plateau de Saclay, mais l'enjeu de la pollution des rivières au nitrate est un enjeu majeur, ainsi que la pollution aux pesticides. Et le dernier enjeu, c'est la pollution en fait aux fines, c'est-à-dire le produit de l'érosion dont on n'a pas parlé. Et donc toutes ces petites particules très très fines, là, donc on ne parle pas du coup des limons, mais plutôt de l'argile, il y a toujours un petit peu, qui est emportée par les eaux qui transitent, récupérée par le drainage, et évacuée, ça rend en fait, ça donne de la turbidité et une charge en matière organique aussi associée, qui est nuisible à la qualité des rivières.
De la turbidité.
Turbidité, c'est le fait que l'eau soit marron, en gros.
Voilà.
Trouble.
C'est plus simple pour moi. Alors justement, quelle est la conséquence de l'urbanisation? Alors vous avez été alerté, Cyril Gérardin, au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises, avec l'urbanisation commençait déjà, avait déjà commencé avant 2000, mais avec les grands projets, un projet du Grand Paris, les clusters, la ligne 18 qui arrive du côté du plateau de Saclay, en tout cas le Grand Paris Express. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer à la vie du sol?
Alors, effectivement, ce à quoi je suis confronté, c'est de voir, en fait, de constater que j'ai autour de moi des communautés de pédologues, de gens, de scientifiques, de sciences du sol, qui travaillent énormément sur les sols, et que finalement, les aménagements en région parisienne sont faits sans discernement des bons sols ou des mauvais sols. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut construire en région parisienne, il n'y a pas de souci, il faut construire, il y a des besoins en logement, en locaux, etc. C'est pas un problème, ça. Mais ce qui est dommageable, de mon point de vue, au XXIe siècle, c'est d'aménager sans tenir compte de la qualité intrinsèque des sols. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler de cette qualité des sols, qui ont des indicateurs pour la caractériser.
Surtout à Saclay.
Voilà. Mmh. Et donc, c'est vraiment, je trouve, terrible à notre époque et coupable, d'une certaine manière, d'utiliser des sols fertiles et limoneux comme ceux du plateau de Saclay pour des aménagements, alors qu'on pourrait utiliser des sols plus caillouteux, plus argileux, etc., pour les mêmes aménagements. Quoi.
Qui voilà. Existent sur le plateau de Saclay.
Voilà.
Aussi.
En plus, il y a effectivement sur le plateau de Saclay des sols de bordure, hein, Pascal en a parlé, des sols d'argile en meulière, dont les agriculteurs, de toute façon, vous disent, quand ils sont obligés de cultiver ces sols-là, ils perdent 50 à 60% de rendement. Donc, sont des sols beaucoup moins fertiles que les sols limoneux. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment alerté, c'est de voir que les aménageurs dessinaient des plans d'aménagement sans tenir compte de la qualité des sols, qui, par ailleurs, est parfaitement maîtrisée et connue. Vous voyez, donc,
par méconnaissance ou volontairement?
Je pense que c'est une forme...
C'est quand même fou de dire qu'on aménage sur les terres fertiles et qu'on laisse les terres moins fertiles.
Voilà, je pense qu'il y a une forme d'ignorance. Et en plus, il y a un espèce de vide réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, les sols fertiles ne sont pas protégés en tant que tels. Il n'y a pas de disposition réglementaire vraiment pour protéger les sols. Donc à partir du moment où un schéma d'aménagement s'applique sur un espace, en fait, il prend pas tellement en compte cette qualité intrinsèque des sols. Et pourtant, je peux vous dire que dans les dossiers d'enquête publique qui portent ces aménagements, il y a souvent des avis, par exemple, de l'autorité environnementale qui pointent la qualité des sols, la forte productivité des sols, la fertilité des sols. Et malgré ces avis de l'autorité environnementale, les déclarations d'utilité publique, elles passent toujours, en gros, et les aménageurs, ensuite, dessinent leur aménagement. Donc, quand même, sur le sud du plateau de Saclay, ce sont quand même 400 hectares qui sont aménagés. Et le dessin de l'aménagement s'est fait sans tenir compte de la qualité agronomique des sols. Et ça, c'est vraiment terrible, quoi. Et alors, évidemment, après, par rapport à ces aménagements, bah, on peut tout à fait comprendre que l'activité biologique des sols sous du bitume ou du béton ne sera plus jamais la même. Alors, en plus, ce qui se passe sur le plateau de Saclay, c'est que par rapport aux soucis hydriques, enfin d'accumulation de pluie, parce qu'on crée beaucoup de surfaces imperméables, en fait, on a également tendance à décaisser les sols. C'est-à-dire qu'on retire la couche arable, utilisée pour les pratiques culturales. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mètre de sol, en gros, il faut quand même 10 000 ans pour le former. Donc, quand vous décaissez avec une pelleteuse un mètre de sol, vous enlevez 10 000 ans de notre histoire.
Et ça c'est quelque chose... Et ça ne se reconstitue pas en deux semaines.
Et c'est quelque chose qu'on ne refera jamais à l'échelle de l'humanité. Et moi, j'ai toujours tendance à donner cet exemple, hein, que nous sommes assez critiques de ce qui se passe pour la forêt amazonienne au Brésil, en disant c'est quand même dégoûtant, ces Brésiliens qui massacrent la forêt amazonienne parce qu'ils veulent faire des cultures de soja ou autre. Mais nous... une forêt, je dirais qu'en 100-200 ans, on arrive à refaire une forêt. Hein, ça prendra 4, 6, 8 générations. Nous, les sols qui ont 10 000 ans quand on les décaisse sur plus d'un mètre de profondeur, je veux dire, à l'échelle humaine, on ne les reconstituera jamais. Donc, c'est vraiment une perte nette. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommageable et coupable.
Et irréversible. Pascal Mauzis, par rapport justement à cette urbanisation, qui a également des conséquences... hydrique, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement les conséquences ? On peut parler de drains qui sont cassés ou de terres qui sont urbanisées et qui du coup ne remplissent peut-être plus leur rôle. Expliquez-nous.
Oui, alors si on prend l'urbanisation comme le fait de convertir un sol à une zone urbaine, donc là en l'occurrence c'est soit des sols naturels, assez peu en fait, hein, soit des sols, sur le plateau de Saclay, soit des sols agricoles. Et cette conversion, évidemment, change la surface. Alors, tout dépend comment on fait cette urbanisation. Et il y a plein de façons de faire une urbanisation. Il y a celle où on fait un parking ou un grand toit de supermarché. Et puis toute cette eau, outre que ce soit naturellement complètement détruite, toute cette eau ensuite est évacuée sur les côtés un petit peu comme on peut. C'est à peu près le pire modèle qu'on puisse avoir. Sinon, l'urbanisation sur le plateau de Saclay a obéi à des règles, et des règles hydrologiques assez claires et assez dures, alors qu'ils n'étaient pas toujours cohérentes d'un bout à l'autre, parce qu'on est au croisement de différents bassins versants, de départements, des classements de rigoles différents, etc. Des statistiques différentes. Bon. Mais en tout cas, on ne peut pas construire n'importe comment. Il faut respecter plusieurs règles. Un, la retenue à la parcelle pour certaines pluies. Voilà, donc les volumes sont fixés, c'est les petites pluies. Et là, normalement, celui qui bâtit doit s'assurer que l'eau reste là pour ces petites pluies, avec une petite fuite éventuelle. Voilà. Et puis, pour les pluies plus importantes, il est toléré évidemment de dépasser ce seuil, hein, par définition, et c'est géré à l'échelle du quartier. Et là, l'aménageur conçoit le quartier avec des noues, des souterrains, des réservoirs sous les voiries, des bassins, différents systèmes pour retarder l'eau. Et par exemple, pour des pluies jusqu'à 50 mm, par exemple. Voilà. Et puis ensuite, si ça ne suffit pas, il y a les dispositifs à l'échelle du plateau, comme tout un ensemble de casiers qui ont été bâtis dans la ZAC du Moulon.
Des casiers ?
Des casiers, en fait, ce sont des décaissements voilà, de 2 à 4 mètres de profondeur, et avec alimentés, en fait, lorsque, en l'occurrence cela, la rigole de Corbeville est trop haute et donc va déborder à l'intérieur, les remplir. Donc ça va permettre de tamponner un petit peu un gros débit ou un gros niveau d'eau. Et puis après, bon, y a encore un autre dispositif pour les pluies très exceptionnelles. Bon. Et ça, c'est quand... ça a l'air bien, en fait, hein, c'est quand ça marche. Et effectivement, un sol urbanisé, comme ça, en respectant bien ses règles, présente moins de risques d'inondation pour les vallées. Parce qu'il retient plus d'eau, en théorie, qu'un sol naturel. Le sol naturel, non drainé, il ruisselle. L'eau fait des marées, et puis après, ça coule. Et ça peut couler beaucoup. Quand il est agricole, il est drainé par définition. Et il n'y a pas d'agriculture si le réseau de drainage ne marche pas. Partout, il y a un drain qui pète. Il y a une mouillère, on perd un demi-hectare, un hectare. Comme ça va très très vite. Donc, le sol agricole, c'est celui qui évacue quasiment le plus d'eau en 2-3 jours. Parce qu'il y a le temps quand même que l'eau traverse un mètre de sol aussi. Il y a un petit délai de quelques heures, mais c'est pas beaucoup. Et d'un autre côté, un sol drainé de façon agricole, il est vidé de son eau au préalable. Donc il a une capacité de retenir l'eau de pluie plus importante qu'un sol non drainé. Donc il y a les deux effets. Et les deux difficultés qui sont derrière, c'est quand ça ne se passe pas comme prévu. Alors d'abord, on est en travaux, ça fait 20 ans qu'on est en travaux. Ouais, donc les travaux, ça veut dire qu'on interrompt un fossé, ça veut dire que ça, ce n'est pas fini, là, ce n'est pas connecté. Ah, je redéconnecte, mais je reconnecterai plus tard. Et puis bon, la retenue d'eau pendant les travaux, oui, j'ai fait un fossé, mais ça ne marche pas très bien. Bon. Et puis il y a aussi des tas de déchets qui se baladent, qui volent, et ça finit où ? C'est emporté par l'eau, ça finit dans les rigoles, et ça obstrue les passages. Donc ça, c'est typique. Et ça, c'est les travaux. Mais il y a aussi la question de l'entretien. Parce que les rigoles s'envasent naturellement, les bords s'effondrent, il y a la végétation qui pousse, des tas de déchets qui s'accumulent. Et donc, là aussi, ce système perd ses fonctions s'il n'est pas entretenu. Donc, l'entretien est un enjeu majeur. Et pour maintenir les fonctionnalités. Et la troisième difficulté, c'est que même si c'est bien entretenu, bien dimensionné, pour le climat actuel, est-ce que ça le sera pour le climat futur? Et là, c'est la grosse question, c'est une alerte que je posais déjà il y a une dizaine d'années, c'est que l'aménagement, là en l'occurrence, a été fait pour répondre à une demande nationale pour obtenir un résultat aujourd'hui. Ce n'est pas l'aménageur qui est responsable de la tenue sur 100 ans de ces dispositifs. Ça, c'est ceux qui récupèrent la compétence, en l'occurrence, après tout le système, nous, le nôtre, etc. C'est la communauté d'agglomération. Et cette communauté d'agglomération récupère ce qui était bâti pour d'autres. Avec la responsabilité, par contre, de faire durer ça pour les générations à venir.
C'est eux qui géreront l'entretien, en gros. Ouais.
Oui, mais c'est aussi eux qui vont faire face au changement climatique. Or, on voit bien, on l'anticipait un petit peu déjà à l'époque, mais on voit bien que les pluies sont plus importantes, moins nombreuses et plus importantes. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Elles peuvent être aussi plus nombreuses et plus importantes, mais il y aura davantage d'humidité dans l'air, c'est évident, plus de chaleur. Et ce qui fait que les pluies vont augmenter en intensité. On l'a vu récemment, l'an dernier, mi-juin, hein, des pluies extrêmement rapides, très denses, inférieures à la pluie exceptionnelle. Donc elle aurait dû, en théorie, être retenue. Elle ne l'a pas été. Et personne n'a râlé, parce que c'était évident que c'était inarrêtable la quantité de pluie qui est tombée. Il faut faire face à ça. Et ça, c'est la troisième difficulté. C'est que l'urbanisation telle qu'elle a été conçue n'a pas été conçue pour faire face à ces épisodes nouveaux. Et il va falloir redéfinir les pluies. Il va falloir remettre en place des systèmes nouveaux, additionnels, pour faire face à ces pluies. Peut-être travailler sur le drainage agricole, sur la retenue des eaux de drainage agricole. Pourquoi pas ? Ce qui pose des questions de financement et de surface, puisque c'est de la surface qui est perdue, le foncier est essentiel. Et accepter aussi des manquements de ce système de prévention des inondations, et donc des inondations. Et gérer socialement, et tout ce qu'il y a derrière, ces conséquences.
Oui, parce que les conséquences, c'est l'inondation. L'inondation notamment des villes de vallée.
Oui, alors il y a quatre types d'inondations. Hein. Il y a l'inondation par nappe sur les plateaux, c'est l'eau de nappe qui remonte. Il y a l'inondation en coteau, avec le ruissellement sur le coteau qui inonde les maisons par au-dessus, mais aussi par la nappe qui remonte par en-dessous, aussi à cause de l'urbanisation des coteaux, qui fait que la nappe a moins de place pour couler, donc elle monte. Et la quatrième, c'est l'inondation par les rivières, par en-dessous.
D'accord, qui déborde.
Qui déborde et qui remonte, oui.
Cyril Jardin.
Oui, je voudrais... Bon, Pascal a très bien présenté le dispositif. Je voudrais revenir à une considération qui est liée et complètement pour les sols. Donc, Pascal a expliqué qu'effectivement, on crée des surfaces imperméables dans l'aménagement urbain et que, effectivement, sur ces surfaces imperméables, il y a une gestion qui se fait de l'eau qui arrive avec les précipitations. Et il a parlé de casiers. Donc des bassins qui ont été construits. C'est-à-dire que pour gérer l'eau qui est générée sur les surfaces imperméables, effectivement, l'aménageur a conçu ces bassins ou ces casiers. Hein. Mais il faut bien comprendre que ces bassins et ces casiers, à proximité de la zone urbanisée, de la zone urbaine, ils ont également été construits sur des zones agricoles. C'est-à-dire, c'est un peu la double peine pour les sols, puisque à la fois, à un endroit, le sol a été recouvert de bâtiments ou de parkings, et que l'eau qui est générée par ces surfaces de parkings ou de bâtiments, pour être contenue sur le plateau, on a été un peu plus loin, dans des parcelles agricoles, creuser des bassins jusqu'à 3 mètres de profondeur, pour pouvoir retenir cette eau lors des fortes précipitations. Et donc, on a forcément, là aussi, consommé un peu plus d'espace agricole. Quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment, je dirais, un impact quand même assez lourd pour les sols agricoles et fertiles du plateau de Saclay. Voilà.
La question que je me pose également, c'est la concertation. Pour vous qui m'expliquez ça depuis le début de l'émission, voilà, avec vos compétences, hein, vous êtes sur le terrain, vous êtes spécialiste du sol, de l'eau. Est-ce que vous êtes concerté? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Est-ce qu'on vous a demandé de participer à justement l'élaboration de tout cet aménagement qui bouleverse quand même la vie et des sols et la vie hydrique aussi du plateau de Saclay. Quel a été votre rôle? Est-ce qu'on vous a sollicité? Est-ce que vous êtes obligé vous-même de vous imposer en quelque sorte, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, hein, on l'a vu avec les aménagements qui continuent de se faire sur les terres fertiles. Pascal Moses, Cyril Gérardin.
Bon, on a été... moi, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs réunions, puisque... Dans les aménagements, il y avait à un moment à gérer l'interface des aménagements avec notamment des dispositifs de recherche ou des situations agricoles et des dispositifs de recherche en agriculture. Donc il y a eu effectivement des réunions auxquelles on a pu participer. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a eu un parti pris dans l'aménagement au sud du plateau de Saclay, de faire travailler une équipe en architecture du paysage qui a fait un dessin architectural. Donc il fallait que le campus soit beau, mais beau, c'était la vision en fait du dessus, et que le dessous, c'est-à-dire les sols, finalement n'était pas du tout considéré dans ce dessin architectural. Voilà. Donc ça a été très clair, et c'est vraiment, je pense, une des difficultés qu'on a eues. Puisqu'ensuite, le positionnement des différents quartiers, des différents îlots dans les quartiers, et notamment, moi j'ai vu arriver des complexes sportifs. Donc quand on parle de complexes de terrains de sport, hein, je parle de stades de football et de rugby et tout ça, et j'adore le sport, hein, et je pratique et j'adore ça. Mais on voit très bien qu'un terrain de sport, et on l'a expliqué avec les travaux de géotechnie qui sont faits pour installer un terrain de sport. En gros, un terrain de sport, c'est déposé sur des matériaux stabilisés. Donc en fait, vous enlevez déjà le sol agricole, vous mettez un géotextile, vous amenez du remblai, et ensuite vous faites tout un travail pour que le terrain soit drainant et drainé, parce que un terrain de foot, s'il y a trop d'eau, on peut pas jouer correctement. Ouais. Voilà. Et ensuite, vous mettez à la fin, et sur pas mal de terrains, des pelouses synthétiques pour qu'on soit pas trop gêné par l'entretien du gazon. Donc en fait, typiquement, les terrains de sport, les complexes sportifs, auraient pu être posés sur des sols de faible valeur agricole. Eh bien, systématiquement, il y a eu des complexes sportifs posés sur des champs qui, l'année précédente, portaient du blé, étaient des parcelles extrêmement fertiles. Donc là, vous vous dites quand même qu'il y a un aménagement, là encore, un peu coupable, qui ne fait pas de discernement entre les bons sols et les mauvais sols, quoi. Et ça, c'était vraiment le dessin architectural qui a voulu ça, le dessin de l'aménageur. Et bien qu'on ait vraiment introduit très largement cette question de prise en compte des sols, franchement, on n'a jamais été écouté là-dessus, quoi. Voilà.
Pascal Mogis.
C'est vrai que... Alors, sur la concertation, évidemment, on a tous plusieurs casquettes. Hein. Pour uniquement parler en tant que scientifique hydrologique, il y avait effectivement ces réunions dites lisières avec l'établissement d'aménagement, le PAPS, et on a eu une réunion de temps en temps, une fois tous les ans, deux ans, trois ans. Alors, on en a plus depuis plusieurs années, d'ailleurs. Et ils demandent notre avis, après avoir pris l'essentiel des décisions souvent, et puis ensuite, les préconisations qui ont pu être... certaines se sont perdues entre plusieurs révisions des projets, etc. Et on n'est pas associé à la réalisation des travaux. Effectivement, il faut quand même plutôt s'imposer. Peut-être qu'avec la nouvelle organisation de la communauté d'agglomération, ça va mieux se passer parce qu'ils ont récupéré officiellement la compétence gestion de l'eau, une compétence GEMAPI, et puis avec du personnel dédié à cela. Mais par le passé, la collaboration officielle avec l'institution était très très faible. Alors ensuite, il y a une association sur le plateau de Saclay de concertation sur les questions agricoles, et avec pas mal de collèges représentatifs, mais s'occupe pas, pour l'instant en tout cas, des questions d'inondation dans les vallées ou d'impact urbain. C'est plutôt centré sur les besoins agricoles, même si je ne dis pas que ça ne peut pas changer, mais enfin, voilà. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui...
Il ne s'y intéresse pas, ou est-ce qu'il pense que les projets d'urbanisation ne seront pas forcément responsables de ces inondations, de l'augmentation des inondations?
Alors si on parle d'associations en question, Terre et Cité, c'est la défense de l'agriculture hein, qui est au centre. L'urbanisation est un problème énorme pour eux, ça c'est évident. Ouais. Mais la question des inondations dues à l'activité agricole, qui doit être maintenue, hein, c'est pas la question, ouais, mais n'est pas,
pas traité,
ne remonte pas pour l'instant.
Ne remonte pas en tout cas. Ouais.
En fait, Terre-et-Cité, donc je suis aussi vice-président dans l'association Terre-et-Cité pour le collège association. Donc Terre-et-Cité, en fait, a un très gros dossier qui s'appelle les fonctionnalités agricoles du plateau de Saclay. Donc on regarde effectivement.
On rappelle en quelques mots, Terre-et-Cité, c'est une association qui rassemble.
Terre-et-Cité, c'est une association qu'on dit de territoire agri-urbain, qui a un format, je dirais, assez particulier sur le territoire, parce qu'elle regroupe à la fois un collège d'élus, un collège d'agriculteurs, un collège de société civile et un collège d'associations. Ce qui fait qu'en fait, sur les sujets qui intéressent le territoire, et notamment pour les questions d'agriculture sur le territoire, on a autour de la table plein d'acteurs, en fait, qui représentent vraiment les différents intérêts. Et c'est quand même très intéressant de travailler avec tous les acteurs autour de la table. Donc, sur les fonctionnalités agricoles, qui est un gros dossier sur le plateau de Saclay, on a vraiment identifié, si vous voulez, que les agriculteurs du plateau de Saclay, même s'ils ont le bénéfice maintenant d'être sur une zone protégée naturelle, agricole et forestière, hein, qui a été définie par la loi du Grand Paris, qu'on appelle la ZPNAF, hein, eh bien, ils ne peuvent pas fonctionner sur cette zone en vase clos, comme dans une réserve d'Indiens entourée de barbelés. C'est-à-dire qu'ils sont complètement connectés à tout ce qui se passe autour, ne serait-ce parce qu'ils reçoivent, eux, ils ont besoin de circuler, ils sont connectés avec leur filière amont et aval, ils reçoivent des produits et ils renvoient des produits. Et donc, tous les travaux, en fait, qui sont autour de la ZPNAF impactent directement leur activité. Et ça, c'est ce qu'on appelle les troubles à la aux fonctionnalités agricoles. Et on a vu, notamment avec des travaux récents sur le CRIS de Saclay, comment des travaux qui se sont étalés sur plus d'un an perturbaient les réseaux de drainage, du coup cassant les réseaux de drainage, ennoyer les parcelles agricoles jusqu'à plusieurs centaines de mètres de distance. Voilà, donc ça c'est tout de suite des troubles évidents pour eux. On a aussi, avec ces travaux, ça a l'air de rien, mais on a des gros problèmes de circulation qui ont un impact direct sur l'activité agricole, parce que, par exemple, des filières aval ne veulent plus envoyer de camions ramasser du produit, par exemple de la luzerne, du fourrage de luzerne. Eh bien, le collecteur de fourrage de luzerne, il dit « Moi, j'envoie pas mes chauffeurs sur le plateau de Saclay parce qu'ils perdent trop de temps dans les bouchons. » Et donc, en fait, le producteur de luzerne, il se retrouve avec la luzerne dans le champ, mais qui peut pas être ramassée par la filière aval, quoi. Voilà. Donc, on a quand même aujourd'hui un contexte très compliqué pour les agriculteurs. Voilà.
Alors, Pascal Moses. Et pour terminer là-dessus, la fonctionnalité du réseau de drainage est absolument crucial, hein, là-dedans vous avez compris. Ce qu'il faut arriver à trouver maintenant, c'est un moyen dans l'existant actuel pour que le maintien de cette fonctionnalité ait des impacts contrôlés sur les vallées en contrebas qui sont en voie d'urbanisation et qui sont d'autant plus exposées à cause du changement de régime de précipitation. Et il faudra avoir ce débat, il faut trouver une solution collective entre ruraux et urbains, entre vallées et plateaux.
Alors, par rapport aux projets qui sont déjà faits, il n'y a pas eu forcément cette concertation. Vous l'avez dit, il y a eu des aménagements. L'exemple est parfaitement illustrant, celui des terrains de foot ou des terrains, en tout cas, qui sont construits sur des terres fertiles sans regarder forcément les conséquences. Il y a des travaux qui arrivent, là. Il y a la ligne 18 qui est en cours. Voilà, il y a plein de projets qui sont en cours sur le plateau de Saclay. Des logements également qui vont arriver. On parle de 70 000 hein, par an, ce que j'ai entendu en tout cas selon les sources. Alors, si ça n'a pas déjà été pris en compte pour les projets qui ont déjà été faits, et ces projets-là, est-ce que vous avez été concerté pour le drainage, pour retravailler sur justement l'évacuation de l'eau et pour travailler également sur les inondations et les effets sur les inondations, le problème va s'empirer, là, j'ai envie de dire.
C'est variable. Pour un aménageur, en tout cas, consulter les chercheurs, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Il y a tellement de contraintes réglementaires, de pressions politiques dans tous les sens et d'obligations, sans compter qu'ils ne sont pas très haut dans la hiérarchie. Donc, ils ont énormément de contraintes. Donc, écoutez en plus les chercheurs qui vont leur dire qu'il faut faire ceci, cela, penser à nos poissons, à la fertilisation, ceci. Bon, c'est bien. Mais en fait, c'est pas nous qui exerçons la pression la plus forte et donc la motivation. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal intentionnés, bien au contraire. D'ailleurs, il y a des échanges qui sont très courtois et très riches, mais dans la réalité, la prise en compte de tout ça est mêlée avec tout un tas d'autres considérations très importantes. Mais même quand c'est pris en compte, c'est dans les détails, en fait. D'abord, effectivement, quand il y a des travaux, très très souvent, les gens oublient qu'il y a un réseau de drainage. Donc, ils font les travaux et puis ils ne détournent pas les réseaux de drainage. Il faut ensuite leur rappeler que là, quand même, il y a une fonctionnalité qui a été perdue et vous allez évacuer les eaux de drainage que vous avez cassées.
Sauf que c'est trop tard.
Ah, c'est trop tard. Donc, il peut se passer un an ou deux. Oui. Mais par exemple, pour 2018, hein, c'est prévu. Donc, ils ont prévu d'essayer de retrouver les drains pour pouvoir ensuite les collecter. Donc, en théorie, ça peut être effectivement bien prévu. Mais dans la réalité, il faut repasser derrière. Et ensuite, quand les travaux sont faits, il faut que ça reste fonctionnel. Et là, la question de l'entretien reste posée. Quand un aménageur a fait un drain de ceinture, un réseau de fossés de ceinture pour récupérer les eaux de drainage et les évacuer, qui entretient ce réseau et contre qui se retourner si jamais une année il est dysfonctionnel, alors que ça peut menacer la récolte annuelle, hein, très sérieusement.
Si, là, Gérard.
Oui, je voudrais, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire effectivement un aménagement qui est en cours, qui risque encore de s'amplifier, qui arrive avec des très gros moyens. Moi, je voudrais pointer quelque chose quand même à considérer dans ce cadre de ce début du 21e siècle. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas contester que le campus est là. Voilà, le campus s'installe et il va prendre encore de l'ampleur. Mais ce campus, il arrive un peu comme une soucoupe volante au milieu d'un plateau qui était un plateau agricole. Et moi, l'enjeu que je voudrais voir vraiment aujourd'hui prendre en compte, c'est comment on réalise une forme d'harmonie entre cette nouvelle zone urbaine, qui est une toute nouvelle zone urbaine, c'est-à-dire moderne, et comment on la met en synergie avec la zone agricole autour. Parce que dans la ville, il y a des, je vais dire, des mangeurs. Il y a des gens qui mangent tous les jours, trois fois par jour, enfin, je leur souhaite, quoi, voilà. Et donc, autour de cette zone urbaine, il y a une campagne qui peut être source d'une alimentation. Et moi, je suis dans un schéma, alors c'est mon point de vue personnel, dans lequel on doit vraiment considérer aujourd'hui les terres fertiles qui sont autour des villes comme nos ressources de demain. Parce que demain, nous aurons les problèmes écologiques, les problèmes énergétiques, et on ne pourra plus faire voyager peut-être les denrées sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Et donc, ces terres fertiles qui sont autour du campus, elles auront potentiellement une fonction utile pour nourrir la population locale. Et donc, moi, je suis vice-président de l'AMAP des Jardins de Cérès. Hein. Donc, une AMAP, c'est une association de maintien à l'agriculture paysanne. Et on essaye, donc c'est ce qu'on appelle les circuits courts, on essaye d'aller vraiment dans le sens de la relocalisation de la production alimentaire par rapport à la consommation. C'est-à-dire relier vraiment les agriculteurs qui sont dans le périmètre des villes avec les besoins alimentaires des citadins. On est tous en gros aujourd'hui des citadins. Et il y a de plus en plus de monde dans les villes. Et donc il y a de plus en plus besoin de travailler sur comment ces villes demain se nourriront grâce à la périphérie. On se souvient que Paris, à une époque, il y avait une ceinture maraîchère autour de Paris. Hein. Ouais. C'était Arcueil, Montrouge, Bagnolet, Montreuil, etc. C'était des tas de parcelles qui fournissaient Paris. C'était à une époque où il n'y avait pas le même accès aux réfrigérateurs, aux congélateurs, aux transports routiers, etc. Et il fallait que les denrées soient produites au plus près des villes, au plus près de la consommation. Moi, je crois qu'on risque de repartir dans un cycle comme ça. En tout cas, il faut réfléchir. Et donc, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que dans l'aménagement du campus, les gens qui portent cet aménagement est vraiment de plus en plus, et je pense que quand même, il y a des gens, voilà, des gens qui y pensent, hein, mais qu'ils aient cette considération du travail qu'on peut faire pour l'agriculture dans ce qu'on appelle les franges périurbaines, voilà, qui sont des franges qui devraient, dans les années qui viennent, devenir des franges nourricières. Mais aussi, il y a des schémas qui sont très intéressants. Tout à l'heure, on parlait des sols, des nutriments des sols. Les plantes, pour pousser dans les sols, elles ont besoin d'azote. Aujourd'hui, l'azote, on le fait avec du pétrole. Le pétrole, ça va te coûter de plus en plus cher. Ou le gaz, pareil.
En fait, l'azote,
quand on fait pipi, chacun, quand on urine, vous et moi, il y a 85% d'azote dans l'urine qu'on met dans nos toilettes.
L'urine qu'on met dans nos toilettes, elle part à la station d'épuration d'Achères et pour 70% quasiment, elle part dans la Seine. Donc, en fait, le nutriment azote
dont ont besoin les cultures et que nous, on a consommé grâce à notre consommation alimentaire, nous, les humains, on le remet très, très mal dans la chaîne alimentaire. On ne reboucle pas les cycles,
en fait. Alors qu'on pourrait le faire.
Alors, aujourd'hui, sur le plateau de Saclay, on a des études sur des parcelles bien identifiées avec des gens qui travaillent notamment sur les produits pharmaceutiques, ce qu'on appelle l'écotoxicologie, c'est-à-dire la toxicité des contaminants organiques, etc., pour regarder quand on récupère de l'urine humaine et quand on la met dans les champs pour faire pousser les plantes, qu'est-ce qu'on induit comme problème, quoi ? Voilà. Et est-ce que c'est une voie viable d'utiliser le recyclage des urines sur par exemple, les terres des plateaux de Saclay ? Et franchement, enfin, c'est très vertueux de faire ça. Et d'ailleurs, il y a eu dans les siècles... Bon, aujourd'hui, il y a des tas de cultures où on utilise les fumiers, les lisiers, des animaux d'élevage pour enrichir les terres. Donc, c'est un peu la même problématique. Hein. Sauf que nous, effectivement, dans la voie d'hygiénisation qu'on a vécue sur quelques siècles, là, eh bien, effectivement, dès qu'on parle des urines,
forcément, on se pose des questions.
Et puis, c'est vrai que dans les urines, il y a des tas de médicaments. Et puis, c'est vrai qu'il faut étudier, finalement, quand on remet ces urines dans l'environnement, l'impact pour l'environnement. Et c'est bien ce qu'on doit faire, notamment dans la recherche agronomique. Mais le potentiel, vous imaginez sur une ville, là, sur Saclay, qui est en train maintenant, je dirais, de monter, on imagine qu'il y aura bientôt 50 000 personnes à vivre sur le campus de Saclay. Mmh. Eh bien, ça fait quand même des litres et des litres d'urine oui. qu'on pourrait utiliser dans les champs alentours et qui serait directement un élément de fertilisation très important et du coup, qui recyclerait et qui reviendrait dans notre alimentation.
Voilà. On comprend par votre exemple, hein, qui est très parlant, voilà. qu'il y a des solutions, potentiellement, en tout cas, des
tout
pistes de recherche qui devraient être utilisées.
C'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà.
Pour travailler. On arrive déjà à la fin de l'émission. Un mot de conclusion, peut-être. On a parlé des solutions avec Cyril Girardin, avec cet exemple de l'urine qui, pour moi, est très parlant. Au niveau de la vie hydrique, de l'hydrologie, du drainage. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent ? Il y a des solutions qui sont peut-être déjà testées, même à l'étranger, hein, sur d'autres terres, et qui pourraient également être mises en place sur le plateau de Saclay ? Pascal Maugis ?
Oui, en fait, globalement, on est face à des risques actuels, voire aggravés par changement climatique, auxquels on sait faire face intellectuellement, scientifiquement. Notre difficulté, c'est de la mettre en place politiquement et socialement, c'est-à-dire de construire une décision qui prenne bien compte de tous les facteurs. Là, on est vraiment typiquement sur le plateau de Saclay, sur la décision imposée d'au-dessus, gérée par au-dessus, en dehors du cycle de concertation locale. Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire quand on veut s'adapter à un projet collectif d'une part, au changement climatique d'autre part. Mmh. Et cette question de la gouvernance est essentielle. Sinon, les solutions techniques, on a des solutions techniques pour faire au mieux. Les solutions techniques ont des limites, évidemment, puisqu'on ne peut pas effacer les risques. Et derrière, est-ce que nous rappellent les différentes inondations ? Maintenant, la prise de conscience dans la population, je pense qu'elle est assez fine. Et c'est très heureux, il faut élaborer là-dessus. Il faut accepter, il faut changer de paradigme et vivre dans une culture du risque, c'est-à-dire en sachant, ce qui a toujours été le cas, que les solutions techniques n'offrent qu'une protection partielle et sans doute très limitée dans certains endroits. Donc l'acceptation du risque et de l'inexorabilité, l'inéluctabilité finalement de la faillite de la protection doit rentrer dans la culture. Et derrière, ce que ça signifie, c'est outre que les décisions doivent être prises en tenant compte collectivement des risques partagés, des risques responsables et des risques qui nous sont imposés, de construire socialement une réponse juste pour tout le monde, c'est-à-dire sur le plateau de Saclay, évidemment, les agriculteurs, mais aussi les futurs habitants du plateau de Saclay, ouais. dans les vallées, en tenant compte des conditions sociales, de l'historique, du fait que telle zone n'était pas en zone d'inondation avant, elle l'est devenue, c'est pas la faute de la personne qui a acheté, par exemple. Il faut tenir compte des questions de valorisation et assumer tous collectivement aux différents niveaux, c'est-à-dire l'entraide entre voisins, au sein de la ville, l'aide des communautés d'agglomération, les aides préfectorales, etc., et bien sûr les plans différents nationaux. Chaque échelle doit en fait se concerter de façon fluide pour arriver à une solution acceptable et aussi optimale pour nous tous et sans doute également derrière la moins coûteuse.
le spécialiste de l'eau qui finit sur des solutions fluides. Merci en tout cas Pascal Mogis, merci Cyril Girardin d'avoir participé à cette dernière émission donc de notre série de 8 émissions autour des enjeux du plateau de Saclay, qui a beaucoup fait réagir à nos auditrices, nos auditeurs. On a reçu voilà, beaucoup de réactions. Donc c'est un sujet qui intéresse et qui interpelle, qui est lié notamment au changement climatique, hein, ça c'est certain. Merci également à Philippe Tellier, initiateur avec moi de cette série d'émissions. Donc merci à Philippe Tellier, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir sur notre site internet, donc marmitefm.fr, et à faire, comme on nous l'a déjà fait, à nous proposer des sujets d'émission en lien avec le plateau de Saclay sur des thématiques que nous n'avions pas envisagées et que nous essaierons de faire peut-être dans les semaines à venir. Merci messieurs.
Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt.
C'était Micro Ouvert,
présenté par Nouradine Anne.
Une chose à nous dire, c'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.